le magazine des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait prendre cette semaine une résolution sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Déjà mardi dernier, le gouvernement congolais, la société civile, la SINCO et la MONUSCO ont présenté chacun devant l'exécutif de l'ONU sa vision sur la situation qui prévaut dans ce pays. Les détails, c'est dans un instant. L'ONU veut de plus en plus des femmes militaires dans les missions de maintien de la paix à travers le monde, d'où l'option de leur formation aux techniques de l'information et de la communication, ainsi qu'au fonctionnement même des Nations Unies. Une session a eu lieu du 6 au 17 mars à Entebbe en Ouganda, avec une quarantaine de participantes venues de plusieurs pays du monde. Un dossier dans ce magazine avec notre envoyé spécial, Honoré Missenga Kalala. Enfin, près de 600 millions d'enfants vivront dans des zones aux ressources en eau extrêmement limitées d'ici à 2040. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'UNICEF à l'occasion de la journée de l'eau, célébrée chaque année le 22 mars. En RDC, les enfants sont les premières victimes des maladies dues au manque d'eau. Un spécialiste de l'UNICEF va évoquer la problématique de l'accès à l'eau dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de UN Mag. Nous le disions, la situation qui prévaut en République démocratique du Congo a été au devant de la scène mardi dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cela rentre dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ainsi donc, les chefs de la MONUSCO, la délégation gouvernementale, la société civile ainsi que la SINCO se sont succédés à la tribune de cette institution pour livrer leur part de vérité en rapport avec la crise que traverse le pays et comment s'en sortir. Alors Jean-Pierre Elali est là dans ce studio pour nous rappeler cet événement. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Tina, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Quatre intervenants se sont succédés à la tribune devant les conseils de sécurité. D'abord, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU, puis les présidents de la SINCO, Monseigneur Marcel Ountembi, puis le chef de la diplomatie congolaise, le ministre Chéo Kitundu, et enfin Madame Marie-Madeleine Kalala, représentant la société civile. Le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, a sollicité le soutien total des Nations Unies à l'accord du 31 décembre. Car, d'après lui, je le cite, la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre ouvre de la façon la plus claire la voie à la tenue des élections. Fin de citation. Le représentant spécial énumère néanmoins quelques obstacles qui, selon lui, doivent être levés.
La majorité au pouvoir et le rassemblement à l'opposition ont des points de vue divergents sur les modalités de désignation du Premier ministre et de répartition des portefeuilles clés des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice du gouvernement de transition qui sera formé. Le rôle que pourrait jouer la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SINCO, à l'issue de la finalisation de l'arrangement particulier, est aussi source de discorde. La mort d'Étienne Tshisekedi a eu un impact significatif sur le processus politique en RDC, retardant davantage la finalisation de l'arrangement particulier, la désignation du Premier ministre et l'établissement du Comité national de suivi de l'accord et du processus électoral. Aussi longtemps que le dialogue politique demeure dans une impasse, les tensions risquent de monter. Il me plaît toutefois de noter que la situation semble évoluer dans le bon sens depuis quelques jours. La désignation du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Félix Tshisekedi, comme président du Rassemblement, et d'un représentant du groupe des G7, Pierre Lumbi, à la tête du Conseil des sages du Rassemblement, constitue une avancée qui a permis la reprise le 16 mars, sous les auspices de la SINCO, des négociations sur l'arrangement particulier. De plus, les présidents des deux chambres du Parlement ont appelé à un processus électoral irréversible et crédible et exprimé leur soutien aux efforts de la SINCO.
Pour sa part, Monseigneur Marcel Ountembi, président de la SINCO, a insisté sur le fait que l'accord du centre interdiocésain reste la seule possibilité devant permettre la RDC de sortir du gouffre. Mais pour y arriver, il faut que les acteurs politiques et sociaux congolais s'engage réellement à appliquer les dits accords. On écoute également les prélats catholiques.
Toutes les institutions en mandat électif de la République démocratique du Congo ont épuisé leur mandat. C'est une première dans l'histoire de notre pays depuis son indépendance. Les constituants n'ayant pas prévu une telle situation, l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa s'avère la seule feuille de route réaliste pouvant sortir le pays de la crise institutionnelle. Malheureusement, l'arrangement particulier destiné à assurer la mise en œuvre du dit accord peine à se conclure. Alors que la population attend impatiemment les élections, le statu quo politique dû à l'intransigeance des négociateurs.
Le chef de la délégation gouvernementale, Léonard Chiokitundu, a par ailleurs souligné que deux points de divergence restent à régler pour l'application du dit accord. Léonard Chiokitundu.
S'agissant de la nomination du Premier ministre, le rassemblement est appelé à présenter une liste comportant au moins trois noms, parmi lesquels le chef de l'État aura à en nommer un, conformément à l'article 78 de la Constitution. Pour ce qui est du président du Conseil national de suivi de l'accord, celui-ci avait été désigné par consensus. Il devrait en être de même pour son remplacement, qui devra se faire de la manière consensuelle. Le gouvernement tient à rassurer votre Conseil qu'il n'existe aucune manœuvre dilatoire de sa part de nature à retarder la mise en œuvre de l'accord. Le retard que connaît le processus est dû à des circonstances objectives.
Enfin, la société civile, par la bouche de Marie-Madeleine Kalala, a peint un tableau sombre de la République démocratique du Congo. Une situation consécutive, selon Madame Kalala, à la non-tenue des élections et au peu d'empressement de la classe politique d'aboutir à un consensus. Et pour elle, les principales victimes de cette situation sont les femmes et les enfants.
Alors, moi, je vous dis merci beaucoup, Jean-Pierre Nalé, pour ce dossier complet, en tout cas, sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et c'était devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Autre effet, environ 40 femmes militaires de différents pays ont pris part à une formation organisée par l'Académie des signaux des Nations Unies. C'était en Tébé, en Ouganda. Et Honoré Missenga Kalala était sur place. Alors, Honoré, bonjour. Vous avez couvert pour nous la cérémonie de clôture de cette formation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement?
Bonjour Tina Salama, ils étaient exactement 37 femmes militaires et policières à avoir pris part pendant deux semaines du 6 au 17 mars à une formation sur les techniques de l'information et de communication ainsi que sur le fonctionnement de l'ONU. Ces femmes en uniforme étaient venues du Ghana, du Kenya, de la Namibie, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe pour l'Afrique, du Bangladesh, de la Mongolie, de la Jordanie, du Népal et de Sri Lanka pour l'Asie, de l'Équateur pour l'Amérique latine ainsi que de l'Espagne et de la Roumanie pour l'Europe. La cérémonie de clôture s'est passée dans une belle ambiance, à l'image des sentiments exprimés ici par Madame Safia Boli, la chef du Centre de services régional des Nations Unies en Tébé, hôte de l'événement.
L'Académie est non seulement l'une des actions les plus importantes du centre, la formation, aider les femmes et surtout le personnel qu'on a dans les missions de maintien de la paix à pouvoir aller jusqu'au fond de leur potentiel et à pouvoir soutenir les missions de maintien de la paix. Donc cet événement qui vient de se passer est non seulement professionnellement un honneur et un plaisir de pouvoir le soutenir et d'y participer. Toutes les sessions auront lieu au centre et cette session était la deuxième. On espère qu'on aura beaucoup plus et qu'on puisse donner l'opportunité à beaucoup plus de femmes à travers le monde et pas nécessairement dans un continent ou dans l'autre, mais pouvoir marquer la diversité du personnel de l'ONU.
Contente de l'information reçue, l'une des militaires ougandaises abordées explique les raisons qui l'ont poussée à choisir ce métier dans ses propos traduits en français.
I'm from northern Uganda and I really feel I was at school when an abduct ladies from girls' school near my home. And I felt it because some of them ran home with night dress. It was at night, so I feel I should join the army. I should see those people and at least kill them if at all I can manage. But after joining, I found.
Je viens du nord de l'Ouganda et j'ai eu une expérience quand j'étais jeune où des jeunes filles de mon village ont été kidnappées. Cette expérience a été très traumatisante et j'ai vraiment voulu rejoindre l'armée pour venger mes sœurs. Une fois que j'ai rejoint l'armée, je me suis rendu compte que l'armée, en fait, c'était plus un élément pour construire la paix.
La session suivante est prévue en juin prochain dans la même ville ougandaise et dans le même cadre. Voilà, Tina Salama, l'essentiel de ce qui s'est passé à Entebbe.
Merci Honoré Missenga, nous allons y revenir avec l'invité.
Magazine des Nations Unies, Décryptage.
Le 22 mars dernier, c'était la journée mondiale de l'eau, une denrée si essentielle pour la vie. Cependant, seuls 47% des Congolais en milieu urbain et 36% en zone rurale ont accès à l'eau potable ou salubre. Les enfants sont les premières victimes des maladies dues au manque d'eau potable. Alors quel appui l'UNICEF apporte-t-il au gouvernement pour s'assurer que les enfants ont de l'eau pour leur épanouissement? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, Jean-Pierre Elali Coco reçoit pour vous Monsieur Kuhn. Il est coordonnateur programme village et école Asseni et je vous propose leur entretien.
Monsieur Kuhn, bonjour.
Bonjour.
22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. L'accès à l'eau et surtout à l'eau potable est l'un des droits de l'enfant. En RDC, seulement 47% de la population ont accès à l'eau potable en milieu urbain et seulement 36% en milieu rural. Ces chiffres ne sont pas du tout encourageants, il faut le dire. Quelle est la situation concernant les enfants en RDC?
Oui, effectivement, ce sont des chiffres qui sont assez bas, si on compare aussi avec les autres pays dans la région. Plus spécifiquement, donc, il y a effectivement un écart entre le milieu urbain et le milieu rural, même si, disons, 47% au milieu urbain, c'est aussi un chiffre très bas. Et donc, nous savons que toujours une majorité de la population en RDC habite au milieu rural. Donc là, nous avons 36% de couverture, ce qui a sans doute un impact fort sur les maladies diarrhéiques et d'autres maladies comme le choléra ou d'autres maladies liées à l'eau. Et l'impact, c'est souvent sur les enfants entre 0 et 5 ans. Et c'est justement pour ça que UNICEF travaille ensemble avec le gouvernement pour améliorer l'accès en eau, hygiène et assainissement au milieu rural en RDC.
Mais comment expliquez-vous, Monsieur Cook, ici à l'UNICEF, ces contrastes d'un pays riche en ressources en eau souterraine et de surface et le faible taux d'accès à cette denrée essentielle?
Souvent, il y a un manque d'infrastructures, clairement. Donc, il y a une grande partie de la population qui est encore habituée à prendre les eaux de surface qui ne sont pas toujours l'eau potable ou de l'eau de bonne qualité. Donc, il y a cette manque d'infrastructures qui existe au milieu rural et qui a besoin vraiment d'être travaillé. Les partenaires qui sont là-dedans doivent vraiment chercher comment améliorer les infrastructures de l'eau.
Qu'est-ce que les partenaires doivent faire concrètement pour appuyer le gouvernement de ces côtés?
Par exemple, nous encourageons des nouvelles technologies qui ne sont pas forcément des technologies les plus chères, mais qui peuvent quand même assurer l'accès à une eau de qualité.
Exemple ?
Notamment les forages manuels, qui sont des forages en fait qu'on peut réaliser à une profondeur de 30-40 mètres. Dans des sites qui sont même difficilement accessibles, nous pouvons arriver avec les équipements et avec un coût assez bas, entre 4 000 et 5 000 dollars, nous pouvons réaliser un forage et installer une pompe manuelle qui peut donner de l'eau sécurisée à la population rurale.
Cette année, le thème de la journée est lié à la lutte contre le choléra en RDC. Plus de 5 000 cas dus à cette épidémie ont été enregistrés l'année dernière, dont 3 000 le long du fleuve Congo. Que pouvons-nous retenir de l'apport de l'UNICEF dans cette lutte, et notamment en faveur des enfants?
Donc UNICEF a un rôle important dans les situations d'urgence comme coordinateur du cluster. Donc le Cluster Watch, en fait, c'est une coordination entre les partenaires qui travaillent dans les urgences. Donc ici pour le WASH, UNICEF est le cluster lead et donc nous avons ce rôle important de coordonner les acteurs dans les urgences en WASH et spécifiquement aussi pour le choléra. Nous travaillons ensemble aussi avec le gouvernement sur le plan multisectoriel d'éradication du choléra pour essayer d'éviter des situations comme l'année 2016 et d'autres années précédentes qui ont connu beaucoup de cas de choléra. Et ça nous montre en fait cette épidémie récente en 2016 qui est encore très forte, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en RDC vers l'éradication de choléra.
Et là aussi, il y a un travail de prise en charge pour les malades, par exemple, qui viennent du choléra.
Oui, effectivement, donc entre les partenaires, il y a notamment un travail qui est réalisé au niveau de prise en charge, mais aussi au niveau des points d'eau, pour sécuriser les points d'eau avec la chloration.
C'est là où intervient l'UNICEF, c'est ça?
UNICEF et les partenaires, effectivement.
Bien sûr, on ne peut pas parler de l'eau potable sans parler du programme Village et École Asseni, dont vous êtes vraiment le coordonnateur. Alors, ce programme qui a été initié en 2008 et est déjà entré dans sa deuxième phase, d'ailleurs on est vers la fin. Alors, Alors dites-nous un mot sur justement l'incidence sur les enfants en âge scolaire en ce qui concerne justement les avancées et les défis.
Donc effectivement, le programme a commencé en 2008. Pendant la deuxième phase, le programme a réussi à amener l'intervention à une échelle beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, chaque jour, il y a 3 villages qui sont assainis. Ça représente 2000 personnes qui obtiennent l'accès à l'eau chaque jour dans le cadre du programme, ce qui a donné le résultat entre 2008 et aujourd'hui qu'environ 10% de la population rurale a obtenu l'accès à l'eau à travers le programme Village École Assainie. Vous m'avez demandé quel impact ou incidence ça peut avoir sur les enfants en âge scolaire. Donc le programme Village Assainie travaille aussi dans les écoles assainies. Et donc la philosophie du programme, c'est d'avoir des enfants qui habitent dans un village assaini et qui peuvent aller à une école assainie et donc retrouver des conditions d'eau, hygiène et assainissement adéquats dans le milieu où ils sont chaque jour.
Monsieur Kuhn, notre entretien se situe dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Est-ce que, à l'occasion de cette journée, vous avez un message à lancer à la population congolaise qui vous écoute en ce moment?
Oui, je pense que l'accès à l'eau, c'est un des éléments les plus importants dans la vie. Si bien c'est un défi au milieu rural, je pense que les villages doivent savoir qu'ils se peuvent organiser en communauté. Ils peuvent réussir à avoir l'accès à l'eau ou maintenir le service de l'eau pour l'importance, en fait, de la santé de leurs enfants. Donc, je pense que la Journée mondiale de l'eau, c'est un moment pour réfléchir là-dessus et pour engager tout le monde, ça veut dire au niveau communautaire, les partenaires, mais aussi le gouvernement, pour travailler ensemble dans une même direction et continuer les efforts pour augmenter l'accès à l'eau en RDC.
Monsieur Kuhn, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP et le ministère de la Santé ont lancé ce mercredi 22 mars une deuxième campagne de réparation de la fistule obstétricale à Goma. Avec l'appui de 3 experts chirurgiens français et 2 experts nationaux, cette campagne va contribuer à améliorer l'accessibilité des soins de qualité. La présente campagne va devoir, entre autres, réparer au moins 50 cas de fistules sélectionnées à Goma, mais aussi renforcer les capacités d'au moins 6 médecins dans la chirurgie réparatrice de la fistule. Pour rappel, une première mini-campagne a eu lieu à Kinshasa en février. Elle a permis d'assurer la réparation de 32 cas et c'était à l'hôpital Biambamari Mutombo. Le gouvernement japonais a alloué 450 000 dollars américains au service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS. Cette donation va permettre à UNMAS d'assister la police nationale congolaise et la commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre. Cette assistance va aider à mieux gérer les armes et munitions pour sécuriser les stocks de l'État et réduire l'instabilité causée par l'augmentation des armes au sein des groupes armés. La donation va aussi permettre au Centre congolais de la lutte anti-mine de remplir ses obligations vis-à-vis de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Enfin, dans le Tanganyika, la réponse humanitaire est dépassée par l'immensité des besoins, selon OCHA. En effet, plus de 370 000 personnes ont été contraintes de fuir les violences du conflit qui oppose les communautés Luba et Toa. Le coordonnateur humanitaire, Dr Mamadou Diallo, a mené du 15 au 17 mars dernier une délégation composée des représentants des agences des Nations Unies, des donateurs et d'ONG dans le territoire de Kialemi et de Manono. Objectif, attirer l'attention sur cette crise qui secoue la région.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme promis, repartons en Thébé en Ouganda avec notre invité du jour, Hadji Diaoua, qui était parmi les formateurs des femmes militaires au centre régional de l'ONU. Elle s'était prêtée aux questions d'Honoré Missinga, Kalala. Suivez leur entretien.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Pour travailler ici en TB, il y a une formation pour les femmes des pays contributeurs des Nations Unies. Il s'agit de quelle formation précisément?
En fait, c'est une formation qu'on appelle en anglais Signal Academy Training. L'objectif de la formation est en fait de renforcer les compétences techniques des femmes qui sont dans le corps militaire de certains pays.
Quelle est la philosophie au-delà de cet objectif-là? C'est-à-dire que les Nations Unies veulent quoi?
Dans cette formation, les Nations Unies cherchent en fait à donner un peu plus de pouvoir et peut-être améliorer le niveau de compétences techniques des femmes qui sont dans le domaine militaire.
Donc le fameux 50-50.
Voilà, on espère y arriver un jour, on n'y est pas encore, mais là vraiment tout est fait pour. N'empêche que dans les formations à venir, l'idée sera quand même d'impliquer des hommes aussi, étant donné que l'objectif principal était de former 100 femmes militaires. Une fois que cet objectif sera atteint, nous commencerons à intégrer des hommes. Mais effectivement, un jour, on espère arriver au 50-50 dont toute femme rêve. Et je tiens à préciser avant même d'aller plus loin au niveau des objectifs de cette formation, à dire que tout ça a été possible grâce à la participation du gouvernement japonais, qui a vraiment permis aux Nations Unies de mettre en place ce programme qui aide essentiellement à renforcer les compétences techniques des femmes dans le domaine militaire et aussi les familiariser avec les pratiques et les procédures qui sont en place dans le système des Nations Unies en vue d'une prochaine participation de ces femmes, si jamais elles sont appelées à joindre un des corps des missions des Nations Unies en Afrique ou quelque part, elles auront déjà les compétences de base pour une intégration facile.
Ce n'est pas la première formation ?
Non. Celle-ci est la deuxième. La formation a débuté l'année dernière où il y avait un groupe de 40 femmes issues des corps militaires de divers pays. Et celle-ci, qui vient juste de se terminer, sera la deuxième. Et aujourd'hui, en fait, c'est le jour de la cérémonie de clôture. Et les femmes ont été là pendant 2 semaines.
Oui, la première fois, c'était 40 femmes. Et cette fois-ci, il y en a eu combien ?
Cette fois-ci, il y en a eu 37.
Venues de quel pays ?
De 17 pays différents, dans 9 pays africains. Et le reste est réparti entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine.
Alors, qui sont les formateurs ?
Alors, les formateurs sont essentiellement des membres du personnel des Nations Unies qui viennent de certaines missions dont la MONUSCO, la mission UNSOS et aussi ici à Entebbe. Il y a juste un formateur externe qui vient des États-Unis, mais sinon tout le reste des formateurs sont des employés des Nations Unies.
Comment vous avez apprécié la participation des participantes ?
Elles ont été très dynamiques et je trouve que ça se voyait qu'elles ont quand même beaucoup apprécié cette initiative et cette opportunité qui leur a été donnée d'avoir la chance d'être un peu impliquées dans le système des Nations Unies, savoir comment ça marche, quelles sont les technologies qu'on utilise, quelles sont les procédures. Parce qu'en général, tant qu'on ne joint pas le système des Nations Unies, on reste un peu sur sa faim dans le sens où, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment aux Nations Unies ? D'accord ? On fait du maintien de la paix, mais techniquement, derrière, elles se sont rendues compte que c'était des gens qui travaillent comme les personnes qui travaillent dans le secteur privé et qui font de la technologie, qui font des ressources humaines, qui font de la finance et tout. Et ces femmes ont vraiment apprécié cette opportunité-là. Et je pense que là, elles repartent requinquées et je pense que pour la majeure partie, avec l'envie et le désir un jour de joindre les Nations Unies.
Il n'y a pas 203, comme on le dit. La prochaine formation, c'est pour quand et dans quel pays ?
Alors, la prochaine formation est prévue pour le mois de juin. Elle débutera le 6 juin exactement et ça sera encore à Entebbe et nous en sommes très fiers.
Vous avez peut-être un dernier mot ?
Oui, un dernier mot sera encore remercier encore une fois et apprécier le soutien du gouvernement japonais qui a vraiment permis aux Nations Unies de mettre en place ce programme qui est très important de nos jours où on parle vraiment de donner aux femmes plus de pouvoir, autant dans le milieu militaire que même dans le tout milieu professionnel. Et grâce aux dons généreux du gouvernement japonais, nous sommes capables de réaliser ce rêve et d'aider des femmes dans le secteur militaire à s'imprégner de ce qu'on fait aux Nations Unies et peut-être un jour de rejoindre une mission des Nations Unies pour mettre en pratique ces connaissances qu'on leur a inculquées pendant 2 semaines.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Plus de 50 jeunes, dont une dizaine de filles, formées à divers métiers dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Formation de 60 jours, dispensée par les casques bleus du contingent pakistanais de la MONUSCO. La cérémonie de remise des certificats aux lauréats a eu lieu le week-end dernier à Walungu Centre. Quel est l'impact et l'utilité de cette formation dans ces milieux ruraux de Walungu ? La réponse dans ce dossier réalisé par Emmanuel Elameji Wakabedi.
Nous allons devoir passer à l'appel nominal de la formation à mécanique auto. mademoiselle Simire Badesire Marie Immaculée.
C'est au total 53 personnes, dont une dizaine de femmes qui ont suivi la formation en maçonnerie, mécanique automobile et électricité à Walungu vers les casques bleus du contingent pakistanais de la MONUSCO à Walungu. Donatien Mouloume Odeiroa Birere, responsable du centre de formation des jeunes de Walungu, explique.
Les jeunes sont venus dans le groupement de Walungu Centre, sont venus du groupement de Kaniola, de Nyangezi, de Nzibira, d'Irongo, de Nduba, ils sont venus même aussi de Lurala et autres venus aussi de Kamisimbi. La formation a une grande importance ici chez nous parce que vous voyez, la vulnérabilité est sincère parce qu'il y a quelques-uns qui sont devenus des voleurs par manque de travail, les autres qui sont en train d'exposer leur corps. Mais grâce à ces formations, peut-être on peut diminuer le chômage.
La mission onusienne souhaite la prospérité de la jeunesse congolaise pour qu'elle devienne le porte-étendard du développement de leurs milieux respectifs. Les lauréats en sont reconnaissants.
Nous avons reçu de nos frères contingents pakistanais de la MONUSCO ici à Walungu une formation accélérée dans la mécanique automobile, la maçonnerie ainsi que l'électricité. Nous leur sommes reconnaissants et promettons d'exploiter au maximum les théories ainsi que les techniques de travail récit 2. Nous promettons à notre gouvernement ainsi qu'à son partenaire, la MONUSCO, que nous serons leurs ambassadeurs dans nos groupements respectifs. Nous prions à notre gouvernement de se servir de ces produits que nous sommes chaque fois qu'il y aura opportunité d'emploi.
Innocent Kahazo, chef de groupement de Walungu, dit être le plus grand bénéficiaire des produits de cette formation des jeunes.
C'est d'abord un acte d'amitié entre les contingents pakistanais qui est à Walungu. Nous, à chefferie de Ngweshe, en chefferie de Kaziba, nous sommes des bénéficiaires directs de ces formations. Quand les gens peuvent déjà se trouver de quoi manger, quelle ambition serait encore de leur part pour aller chez les groupes armés.
Signalons qu'en dehors de la formation de ces jeunes au métier, le contingent chinois de la MONUSCO s'attelle en ce moment même à la réhabilitation des routes en territoire de Walungu.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le 21 mars est consacré à la Journée internationale des forêts. En marge donc de cet événement, le représentant de la FAO en RDC, Alexis Bonté, a été l'invité mercredi dernier de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Suivez la question qui lui a été posée à partir de Goma, et sa réponse.
L'invité Alexis, vous avez souligné que l'exploitation forestière est peu scrupuleuse en République démocratique du Congo, mais il faut garder l'espoir. Pourtant, la population se dit que ces forêts ne nous servent à rien pour notre survie, autant plus que la situation socio-économique se dégrade alors qu'on a des forêts à côté de nous. Quelle est la solution que vous envisagez?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les forêts ne servent à rien. Si vous estimez qu'il y a 80% de la biodiversité dans la forêt, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'animaux. Et si c'est géré correctement, ces animaux restent là. Si maintenant il y a une surexploitation, c'est clair que les animaux vont disparaître. Après, au niveau de la production alimentaire, il y a une approche qui s'appelle l'agroforesterie où vous pouvez combiner la production vivrière avec la production d'arbres et d'arboriculture fruitière également. Donc, il y a différentes techniques qui existent et qui sont mises en place dans différents pays et même au sein de la RDC, comme je l'avais mentionné. Il y a des approches telles que faites sur le plateau de Bateke à Ibi Village et à Mampou, mais également à Lubumbashi, un projet qui s'appelle Afrodex sur l'agroforesterie où on plante des arbres, des acacias en particulier, qui durant les 2-3 premières années sont combinés avec de l'agriculture, donc plantation de manioc ou de haricots. Et donc pendant 2-3 ans, vous avez une plantation vivrière et vous pouvez récolter de la nourriture. Et à partir de la 3e jusqu'à la 6e année, vous commencez à récolter, à produire du charbon et à récolter le fruit et le revenu de ce charbon. Donc il y a toujours moyen de combiner. Mais je pense qu'avec l'inventaire forestier qui sera fait au niveau national cette année-ci, on pourra identifier beaucoup plus de plantes et de types d'animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, donc tout ce qui est chenilles, miel, champignons qu'on trouve dans les forêts. Et ça, c'est souvent parfois des derniers recours pour les populations qui sont privées d'accès à leurs champs, par exemple.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux journées dans votre agenda pour la semaine qui commence. Le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Et le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. Merci de votre attention à la mise en onde ce dimanche. Héritier Sidiakala, la coordination, réalisation, reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Honoré Missenga. Ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe. On vous dit merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Capi. Ciao, ciao.